philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 27 novembre 85.
Donc nous étions dans cette topic à propos de l'éthique. Nous avions essayé de voir comment, en philosophie grecque, on a diverses positions, et je crois que ça c'est très important. Revenir toujours à la source. Ce que dit Merleau-Ponty. Que dit Aristote, revenir à la source et découvrir ces différents courants. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'éthique, on a tout de suite une anthropologie. Et au fond, ces différents courants d'éthique, ces différentes positions éthiques, nous donnent différentes positions anthropologiques. Et puis, je vous avais montré comment, après l'éthique chrétienne, c'est là où il faudrait insister beaucoup. L'éthique chrétienne des pères de l'Église et surtout de Thomas d'Aquin. On a une éthique qui dépasse toute cette diversité que nous voyons en philosophie grecque. L'éthique chrétienne peut assumer tous ces courants en les mettant en ordre. Et je crois que c'est ce que fait saint Thomas. Et c'est ça qui serait très intéressant de voir dans Thomas d'Aquin, comment tous ces courants divers de éthique grecque sont assumés par le haut des vertus théologales. Les vertus théologales sont le levain qui fait lever la pâte. Et la pâte humaine, elle est stoïcienne, platonicienne, aristotélicienne, épicurienne. Elle est tout ça, la pâte humaine. Ça dépend des différents atavismes que nous avons, mais nous avons tous. Nous avons tous une parenté avec Épicure. Elle est très visible. Nous avons tous une parenté avec le stoïcisme. Notre arrière-grand-père était stoïcien. Royal, la sacrée droite, non, c'est stoïcisme, c'est évident. Toute l'école des jésuites, c'est stoïcien. Un stoïcisme baptisé, mais c'est un stoïcisme qui est tout le temps là, latent. L'aristotélisme, il est très caché, mais il existe. Le platonisme, il est plus visible. Mais alors, voyez ces ingrédients. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Ce serait très intéressant de regarder dans la théologie morale de saint Thomas tous ces ingrédients que nous avons en nous. Il y a eu une rupture, la rupture de la tradition chrétienne. Elle se fait à l'intérieur même des théologiens au XIVe siècle. Cette rupture est plus ou moins grande. Et ce serait très intéressant de la regarder. Le XIVe et XVe siècle sont des siècles extrêmement intéressants au point de vue du pluralisme théologique. Et dans ce pluralisme théologique, de fait, on peut découvrir tout ce qu'on a dans la modernité. La modernité a commencé par les théologiens. C'est pas étonnant. Corruption, optimi, pessima. Et au fond, les plus révolutionnaires, c'est toujours des théologiens. Ça existe encore aujourd'hui. C'est très curieux. Et au fond, au XIVe et XVe siècle, vous voyez ça, Nicolas de Cuse, vous savez, c'est quand même quelque chose au point de vue éthique. Hein, l'Occam, c'est aussi quelque chose. On coupe de la finalité. Alors, il y a l'exaltation, forcément, de l'homme. Ça ne peut pas être autrement. Et alors, ceci va se trouver à l'intérieur de la philosophie qui va reprendre ses droits avec Descartes. Alors, nous avions vu ça très rapidement, je vais simplement continuer pour que vous ayez quelques pistes de recherche. Je ne suis pas exhaustif ici, mais quelques pistes de recherche, parce que c'est quand même intéressant de voir ça. Chez les modernes, sûrement que l'aspect de la... J'avais vu Nietzsche la dernière fois. Je vous avais dit Nietzsche, c'est retrouver une éthique à partir de l'art, le surmoi, le créateur, la créativité. La créativité va fonder une nouvelle éthique. C'est, je crois, le désir de Nietzsche. Nietzsche est en rupture très violente vis-à-vis d'un christianisme ecclésiastique. Ça, c'est bien évident. On ne peut pas supporter ça. Nietzsche est en rupture violente vis-à-vis de Kant, vis-à-vis, avant tout, ça c'est sûr, on ne peut pas supporter ça. Nietzsche, c'est un artiste. C'est un artiste qui voudrait que l'art soit l'homme. L'identification de l'artiste et de l'homme. Et donc, à partir de l'art, fonder une nouvelle éthique. C'est très très tentant. On peut dire que c'est Nietzsche qui aujourd'hui commande peut-être ce qu'il y a de plus vivant dans beaucoup de jeunes. C'est très curieux parce que c'est l'originalité, c'est la reprise, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, Nietzsche. Et à travers la nouveauté, redécouvrir quelque chose de tout à fait authentique. Nietzsche était très fort, hein. Pas en lire de trop, mais de temps en temps c'est bon pour vous réveiller. Une page de Nietzsche, ça vous réveille, ça vous donne un petit coup de bambou. Mais ne vous plongez pas dans Nietzsche pendant 6 mois, parce que je ne sais pas ce que ferait le permettre. Ça fait tout sauter, c'est la dynamique. Si on vit vraiment de Nietzsche, hein, c'est vrai que Nietzsche c'est très tentant, c'est très séduisant pour nous. Tout un aspect de séduction très grande dans Nietzsche. Parce que construire une morale à partir de l'art, de la créativité. Avant moi, il y avait des imbéciles. Moi, je suis quelqu'un qui reprend tout. Alors, c'est dit vertement avec Nietzsche. Nous, nous le disons moins. Mais on le pense quand même. Hein. On a toujours un peu ce désir-là. Avant moi, c'était des imbéciles. Avec moi, tout va être repris. Alors, vous avez parallèlement à Nietzsche ce désir de fonder une morale sur la science. Ça existe beaucoup dans une espèce d'attitude positiviste. Mono. Le progrès scientifique fait modifier le point de vue éthique. Mono dit textuellement ça. Et c'est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. C'est le positivisme à l'intérieur de l'éthique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ce matin, la confusion entre le principe, la finalité et l'élément. Et alors on fonde tout sur les nouvelles découvertes biologiques, croyant connaître l'homme quand on connaît la biologie. Vous connaissez les fondements, les caves, les cavernes. Voilà ce que vous connaissez, mais vous ne connaissez absolument pas la finalité. Et si vous visitez les égouts de Paris, vous ne connaissez pas Notre-Dame. C'est sûr, c'est très intéressant de connaître les égouts de Paris. Je dis, je connais un ingénieur qui est l'ingénieur des égouts de Paris, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'il a des fantasmes d'égouts. Alors c'est extraordinaire, ça. Mais il ne connaît pas, même quand il est en dessous de Notre-Dame, il ne connaît pas Notre-Dame. On ne peut pas fonder, vous voyez, on ne peut pas fonder une éthique sur la connaissance scientifique. Évidemment, faites l'analogie, ne dites pas que la connaissance scientifique, c'est les égouts. Ne dites surtout pas ça. Mais c'est les canalisations. Peu importe ce qui passe dedans, c'est les canalisations, au tiède, au chaud, mono. Mono, c'est ça. Mais quand Mono a le culot de dire que éduquer un chat, c'est la même chose qu'éduquer un enfant, il faut qu'il soit propre. Seule chose qu'on manque. Mais c'est la canalisation. Le dressage du chat, ce n'est pas l'éducation. Il le dit textuellement, dans les rencontres à Genève, rencontres internationales, au sommet. Donc, alors, ce que dit Mono, l'avantage de Mono, c'est qu'il est naïf. Alors, il dit ouvertement les choses, c'est un positivisme clair, Auguste Comte. Alors c'est d'une netteté extraordinaire, les autres le cachent. Quand ça passe chez les théologiens, c'est caché, mais c'est exactement les mêmes. On construit une éthique sur le progrès de la science. C'est intéressant à noter, vous voyez. Alors, le fondement, c'est l'éthique qui cherche son fondement. Alors vous prenez ou la création artistique ou la connaissance scientifique. Et vous voulez construire une éthique là-dessus. Vous avez encore d'autres aspects, parce que c'est intéressant d'essayer de comprendre ces différents aspects. Vous avez une éthique à la manière de Sartre. Ce serait très intéressant. Il y a des parallèles qu'on peut faire entre Sartre et le stoïcisme. Ça existe. Mais évidemment, Sartre, c'est le stoïcisme laïque, sans aucun aspect religieux. Sartre veut une nouvelle éthique. Il le veut. Peut-il le découvrir ? Ça, c'est autre chose. C'est une éthique basée sur l'homme est une passion inutile. L'enfer, c'est l'autre. Je prends exprès les deux aspects, les deux commandements qui ne font qu'un. Passion inutile, l'enfer, c'est l'autre. Vous voyez la grimace de l'éthique chrétienne. Là, on est peut-être en face de certains égouts. C'est la grimace de l'éthique chrétienne. Alors, c'est intéressant à regarder. D'une manière toute différente, quelqu'un comme Camus, vous le savez bien, c'est celui qui s'aperçoit de notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde dans lequel tout est abîmé. Le bien et le mal n'ont plus beaucoup de signification sur le monde d'aujourd'hui. Reste une voie d'accès, le point de vue de la beauté. Alors on va essayer de construire non pas une éthique sur la création artistique, mais sur ce besoin de beauté. Le monde voudrait trouver quelque chose de beau. Il y a des textes dans Camus qui sont très beaux. Camus, il y a une certaine noblesse dans Camus. Ça, on ne peut pas nier. Comparativement à Sartre, Camus a une noblesse. Et il cherche à construire une nouvelle éthique, lui aussi, sur la voie de la beauté. Et quand vous regardez, quand il parle de l'amour, en réalité, c'est l'amour du beau. Vous retrouveriez pas mal de choses par rapport au banquet. Donc, il y a quelque chose, il y a une éthique de Camus. D'une manière toute différente, on a parlé de l'éthique marxiste. Oui, je cite simplement, organisez ça après comme vous voulez, ça m'est égal, c'est une topique. Pour vous montrer qu'on est devant une anarchie par rapport à l'éthique. On ne sait plus. On a parlé d'une éthique marxiste. Quand vous regardez attentivement Marx, est-ce qu'il y a une possibilité d'une éthique marxiste ? Percotier, lui, parle toujours d'une éthique marxiste. Mais est-ce qu'on peut baptiser Marx d'un baptême éthique ? Autrement dit, pouvons-nous dire que dans Marx, il y a encore une anthropologie qui atteint le point de vue éthique ? Personnellement, je ne crois pas. Mais respectons quelqu'un comme le Percotier qui dit qu'il y a une certaine éthique marxiste. L'éthique marxiste, vous voyez, reposerait sur certaines intentions de Marx de lutter contre l'injustice. Il est vrai, je crois, que dans Marx, on découvre à certains moments cette soif de justice. Alors ce serait une éthique politique-économique ou économico-politique. Pouvons-nous, à partir d'une économie fondée en éthique. Vous voyez, toujours la recherche du fondement. Il y a des injustices économiques, remarque Sénèque. Le capitalisme est source de toutes ces injustices. Alors, luttons contre le capitalisme, supprimons le capitalisme, établissons une éthique, établissons une économie de la praxis, du travail, et par là, essayons d'établir une certaine éthique. C'est possible qu'il y ait ça comme intention. C'est dans un sens qu'on peut dire qu'il y a une certaine recherche d'éthique. Alors, elle serait par le point de vue politique et par le point de vue de l'économie. Une recherche d'une justice égalitaire. Le communisme, c'est ça. Le socialisme, c'est cela. C'est la nostalgie d'une égalité par l'égalité. Une nostalgie d'une justice dans l'égalité. Il y a quand même quelque chose, je crois, d'humain face aux terribles injustices créées par le capitalisme. Alors, tout ça est vu dans une perspective dialectique. Il ne faut jamais oublier ça, parce que je crois que c'est capital. C'est vraiment le capital. C'est que, de fait, la vision du capitalisme est vue à travers une dialectique. C'est pour ça que beaucoup disent le capitalisme, ça n'existe pas. C'est la vision de Marx à travers la dialectique. Il a besoin d'édifier le capitalisme pour arriver à lutter et établir le communisme. On voit très bien ça. C'est une pensée dialectique. Alors, il y a du vrai et en même temps, c'est très vrai. Qu'il y a des terribles injustices dans notre monde aujourd'hui. Oui, Aristote avait vu que la monnaie introduit des injustices. L'industrie établit des injustices. Ça, c'est sûr. Quand vous ne cherchez que la production pour la production, l'efficacité pour l'efficacité, ça introduit de terribles injustices. Comment pouvons-nous lutter contre ces injustices ? Lutter contre les injustices, c'est quand même un souci éthique. C'est un souci de justice. Alors on pourrait dire c'est la morale de la justice sociale. Hein? Caricature de la justice sociale telle que l'Église en parle. Vous avez ça. Il y a une parenté entre les deux. C'est pour ça que c'est si intéressant de voir comment un chrétien peut assez facilement se laisser prendre et séduire par ça. Parce qu'il y a une certaine éthique sociale. Alors, y a-t-il une éthique sociale sans une éthique personnelle ? Vous voyez le platonisme. Y a-t-il une éthique sociale sans l'éthique personnelle ? Je ne crois pas. C'est la personne en qui il faut redonner le sens moral pour qu'il puisse y avoir une éthique sociale. Vous avez, dans une perspective peut-être qui demeure encore dans l'efficacité, dans l'effort sportif, stoïcienne, Saint-Exupéry, c'est très intéressant à bien voir ça, une éthique qui va s'établir sur le point de vue de l'effort sportif. Au très grand sens, hein, de celui qui manie l'instrument des instruments, pilote d'aviation, ça forge un homme à partir d'un instrument. Et voyez, vous êtes encore dans l'efficacité. L'éthique stoïcienne moderne fait le parallélisme entre Épictète et puis Saint-Exupéry. Vous verriez du parallélisme constant. C'est la domination de soi avec la différence pour Saint-Exupéry, c'est que la domination d'un instrument. Il faut parler de temps en temps à de grands pilotes. Mais je dis, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Ce jeune que j'avais rencontré, qui avait fait Polytechnique, sorti tout à fait premier de Polytechnique, second, troisième, et qui avait choisi l'aviation des pilotes. Et quand il parlait de la manière dont il dominait son instrument et dont il était dominé par son instrument, toute son éthique, qui était une éthique extrêmement sévère, c'est-à-dire qui était plus une ascèse qu'une éthique, le stoïcisme aboutit à une ascèse. Saint-Exupéry, c'est une grande ascèse. C'est pas une éthique, c'est une ascèse. Alors l'ascèse... L'ascèse peut être au service d'une éthique, ou l'éthique peut être absorbée par l'ascèse. Vous avez des moines qui sont des squelettes ambulants. Alors, c'est l'ascèse qui a absorbé le cœur du moine. Les stylites, ça existe toujours. Il y a des stylites. Alors, c'est l'ascèse qui absorbe le point de vue éthique. L'amour n'existe plus que pour l'effort. C'est très beau, c'est beau. Mais c'est dans l'ordre de la beauté. Parce que la cesse, ça conduit dans l'ordre de la beauté. Alors c'est très séduisant, ça fait des modèles, des prototypes extraordinaires. C'est la cesse. Il y a une question très importante au point de vue philosophique qui est d'avoir le point de vue de la cesse et le point de vue de la morale. Vous avez déjà dit chose que m'avait beaucoup frappé, c'est tout à fait au début de ma vie apostolique, j'étais au seul choir des Tioles, le prieur n'était pas là, donc j'étais pratiquement supérieur du couvent, et arrive quelqu'un qui demande de passer une journée de silence. Très bien. Je le vois le lendemain, je lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie civile, première question, c'est intéressant. Alors, je suis gardien de la paix. Je dis qu'on est gardien de la paix, c'est quelque chose. Première question qu'il me pose, est-ce que la cesse est pour la mystique ou est-ce que la mystique est pour la cesse? C'est beau comme question d'un gardien de la paix. Et puis il ajoute, j'ai appris qu'il y avait des moines tout près de Paris. Alors je suis venu poser cette question parce que je ne peux pas poser cette question à un curé. Il ne comprendrait pas. Et quand j'étais chez lui, il m'a montré, il m'a présenté son petit Jean. Parce qu'il m'a dit, j'ai lu toute la cesse de l'Inde, beaucoup de livres sur la cesse de l'Inde. Je crois qu'il n'y a que Jean qui a compris que la cesse était pour la mystique, et non pas la mystique pour la cesse. Ça m'a beaucoup frappé. Quand on entend ça d'un gardien de la paix, c'est assez impressionnant. Et alors, il m'a dit, quand j'ai eu la naissance de mon fils, je lui ai crié dans l'oreille, Jean, pour que la première impression qu'il ait, ce soit Jean. C'est beau. Et il vivait en dehors de l'église. Il était breton, c'est bien évident. Et il avait vu le Christ dans sa jeunesse, à travers le brouillard. Il avait une vision. Ça l'avait beaucoup frappé. Et il signait ses lettres « Amis de Jésus ». Ils étaient tout un groupe, « Amis de Jésus », vivant la spiritualité, la mystique joannique. En dehors de l'église. L'église, c'est les curés. Les curés ne comprennent pas. Alors, la mystique, c'est la mystique. Et toute la cesse, c'est en vue de la mystique. C'était très beau. Alors, vous voyez, Saint-Exupéry, la cesse est-elle au service de la mystique est-elle au service de la cesse? Alors, vous voyez, on voit toujours poindre le stoïcisme. Pour un stoïcien, la mystique est pour la cesse. La maîtrise de soi et la maîtrise de l'instrument le plus noble qui soit, l'avion. admirable. C'est extraordinaire, ça. Et je comprends très bien que c'est quelque chose d'enivrant. Alors, c'est une question, et Saint-Exupéry est très représentant. Alors, vouloir baptiser Saint-Exupéry, oui, on a baptisé le stoïcisme. Doit-on le faire, doit-on pas le faire? Faisons attention, posons-nous toujours la question. Le sabbat est-il pour l'homme ou l'homme est-il pour le sabbat? L'avion est-il pour l'homme ou l'homme est-il pour l'avion? Quand un pilote dit, j'ai entendu, qu'il vit pour 2 heures de vol par jour et que toute la journée est ordonnée à cela, pas d'alcool, pour pouvoir être vraiment pilote. Pas être trop gros pour être vraiment pilote. Vous voyez ? Et tout est ordonné comme ça. Alors la 16 est ordonnée à ça. Alors on dit qu'il y a un pilote. Extraordinaire. Bon, il y a une certaine assaise qui, alors à ce moment-là, l'emporte. C'est intéressant de voir ça. Le stoïcisme moderne. Il y a toujours de la noblesse dans le stoïcisme. Il y aurait un autre stoïcisme, le stoïcisme de Foucault. Je ne vous demande pas de le lire, mais le stoïcisme de Foucault. Alors, sans doute que ceux qui préparent la licence pourront vous donner quelques petits renseignements là-dessus. Ce serait très intéressant de voir comment, dans une certaine perspective du structuralisme, on peut aboutir à une nouvelle morale, qui est une morale de structure de l'homme. Alors, quel est l'élément? Il y a des perspectives différentes. Mais au fond, c'est encore le stoïcisme. Le stoïcisme remplace la finalité par la structure. Et se dominer. La domination. C'est pas la finalité. C'est arriver à se dominer et le noyau central qui nous permet d'être structuré. Alors il y aurait là encore des choses intéressantes à voir. Dans une perspective différente, ce serait toute l'école éthique de la phénoménologie. Marc Scheller. C'est intéressant, c'est chercher les modèles, les prototypes, c'est la causalité exemplaire qui remplace la finalité. Alors on essaie de comprendre les modèles. Marc Scheller, c'est ça. C'est une espèce de phénoménologie qui aboutit à une anthropologie de la valeur. Vous avez de cette manière-là le SEM. La philosophie des valeurs. La philosophie des valeurs, c'est une nouvelle éthique des valeurs. Et je crois que c'est la valeur qui remplace la causalité finale. La causalité finale étant disparue, on essaie de la réintroduire par l'immanent. Tout le problème des valeurs. Aujourd'hui, tout le monde emploie le mot valeur. Hein. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Les valeurs. Alors, il y a le baptême thomiste des valeurs avec Maritain. L'éthique de Maritain, c'est le baptême particulier des valeurs dans le thomisme. On doit essayer de réintroduire la valeur dans une perspective aristotélicienne ou dans une perspective thomiste. C'est Maritain. Il faut lire l'éthique de Maritain. C'est intéressant. Pour comprendre ce que ça représente. D'une perspective très différente, mais parallèle à celle de Maritain, antérieure à celle de Maritain, Mounier. L'éthique de Mounier. C'est une éthique politique. Le personnalisme. Pouvons-nous construire une éthique sur le personnalisme? Et comment devons-nous construire une éthique sur le personnalisme? Alors là, il y aurait Mounier et il y aurait aussi tous les grands psychologues qui étudient la personnalité. Un de ceux qui sont peut-être les plus intéressants, c'est Charles Audier, qui essaie de construire sur la personnalité une vision éthique, une structure de l'homme. Naber, dans une perspective kantienne du devoir, c'est un néo-kantien, si vous voulez. Naber essaie de reprendre toute une éthique face au problème du mal. Je crois que c'est ça qui commande cette nouvelle vision. Et Kant en face du mal, là c'est curieux, c'est un Kant moderne. Et puis dans une perspective de l'existentialisme plus moral, quelqu'un comme Gabriel Marcel. Vous voyez, là il y a toute une série de perspectives éthiques, de recherches éthiques plus ou moins explicites. Bon, ce qui m'intéresse au point de vue philosophique, c'est que toutes ces perspectives essaient de trouver le fondement de l'éthique. Nous sommes en face ou après de toute une désagrégation de l'homme, d'un éclatement, si vous voulez, je crois qu'on peut dire que c'est une sorte d'éclatement. On est en présence de toutes ces idéologies athées. Ces idéologies athées peuvent-elles fonder une éthique humaine? Ou fonder l'éthique? Alors vous avez quelqu'un comme Marx qui essaie de trouver une éthique au niveau économique par la dialectique. Vous avez quelqu'un comme Sartre qui essaie par la néantisation de redécouvrir une éthique. Vous avez quelqu'un comme Camus qui essaie de retrouver une éthique par la recherche, par le sens de la beauté. Vous avez le stoïcisme de Saint-Exupéry qui essaie de fonder une éthique par l'effort constant d'une efficacité, la victoire sur l'effort. Une éthique qui se fonde sur les valeurs. Une éthique qui se fonde sur la personne. Une éthique qui se fonde sur la fidélité. Une éthique qui essaie d'être victorieuse du mal. Je crois que ce sont toutes ces éthiques multiples devant lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, la grande critique que je ferai, personnellement, c'est qu'aucune de ces éthiques ne redécouvre vraiment le point de vue de la finalité. Je crois que c'est leur faiblesse. On ne redécouvre pas vraiment le point de vue de la finalité. C'est très juste qu'une éthique se fonde sur la personne. C'est très juste. Mounier et Maritain ont raison. Pas d'éthique sans le sens de la personne. Mais attention, c'est la personne finalisée. C'est l'amour vécu dans la personne humaine qui peut être le fondement d'une éthique. Ce n'est pas la structure de la personne. Chercher la structure de la personne au point de vue psychologique ou au point de vue politique ne vous fera pas découvrir ce que c'est qu'une éthique. Le point de vue de la cause exemplaire avec les valeurs ne vous fera pas découvrir ce que c'est qu'une éthique. Vous voyez, alors je crois, c'est ça le point de vue qui me semble important à souligner, c'est que tant que nous n'avons pas redécouvert ce qu'est la finalité, on ne peut pas construire une véritable éthique. L'éthique ne peut pas se construire sur la cause exemplaire, elle ne peut pas se construire sur la cause efficiente, elle ne peut pas se construire sur le structuralisme et les éléments qui sont en nous. Impossible. On peut constater les effets d'une éthique, mais pas reconstruire une éthique. Or, il est évident qu'après Nietzsche, Heidegger l'a dit. C'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai, mais il a constaté quelque chose d'intéressant. C'est qu'après Nietzsche, on est obligé de reprendre quelque chose de très radical. C'est ce qu'il y a d'intéressant d'être après Nietzsche. Avant Nietzsche, on n'était qu'ancien. C'est pas très drôle d'être qu'ancien. C'est très sérieux. C'est une morale du devoir. On ne peut plus aujourd'hui avoir une morale du devoir. Ça ne marche plus. Quand vous dites dans une conférence il faut faire cela, vous êtes sûr que immédiatement certains viendront dire qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites il faut faire cela. Le devoir, l'impératif catégorique, ça ne marche plus. Ça marche encore chez certains, oui, toujours. Mais ça ne marche plus pour la plupart. Alors, il faut donc essayer de comprendre sur quoi se fonde la morale. Et donc c'est le premier problème, ça. Un peu critique, c'est vrai. Un peu critique, mais je suis bien obligé, devant cet éparpillement de vision de la morale, remarquez. Quand je dis éparpillement, est-ce que, de fait, cet éparpillement est plus vaste que ce que disaient les Grecs ? Je ne crois pas. L'avantage des Grecs, c'est que c'est très précis. Vous avez 6 formes de morale. Mettez en parallélisme, face à ces 6 formes de morale, tout l'éventail de l'éthique d'aujourd'hui, ou des efforts d'éthique, c'est plutôt des efforts d'éthique, et vous trouveriez quelque chose d'assez semblable. Je vous laisse le faire, pour que vous ayez quelque chose à faire. C'est facile, du reste. Quand vous avez cet éventail grec, mettez vous-même face à tout cet éventail éthique d'aujourd'hui. J'en ai peut-être oublié, hein, si vous en avez. Vous me direz, il y en aurait une, hein, évidemment, Hartmann. Hartmann, c'est une éthique néo-kantienne, mais athée. Donc, juste l'inverse de Kant. Et cependant, quelque chose de semblable, parce que c'est le sens du devoir. Encore une espèce d'éthique du devoir, mais purement athée. Intéressant à voir ça. Vous pourriez en découvrir d'autres, hein, parce que je ne sais pas si, dans quelle mesure on peut découvrir une éthique. Vous voyez, dans une perspective purement psychologique, vous avez une morale sans péché. Évidemment, vous pourriez prendre ça aussi. Une morale sans péché qui essaie de reconstruire une morale à partir de l'éthique. Enfin, là, c'est très, très significatif. C'est plus une morale. Une morale qui se veut au-delà de la catégorie bon et mal. Comme on veut construire une dialectique au-delà du principe de contradiction. C'est un petit peu analogue à ça. Se mettre dans une perspective au-delà. C'est vrai que la morale, ordinairement, surtout quand c'est une morale du devoir, c'est le bien et le mal. Et on considère que le bien et le mal sont la structure profonde de toute l'éthique, ce qui est faux. C'est pas le bien et le mal. C'est tout à fait différent. Mais dans la morale kantienne, par la morale kantienne, c'est ça qui a dominé. D'où Freud. Alors vous pourriez vous poser la question, y a-t-il une morale chez Freud ? Je crois qu'il n'y a plus de morale. L'élément fondamental de Freud, le complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe est-il encore quelque chose de moral ? faut-il tout simplement une nouvelle vision antique-ancienne? Parce que je crois que Freud, c'est de pouvoir montrer qu'on ne peut pas construire une morale à partir du devoir. C'est donc torpiller une morale du devoir en mettant une mine par en dessous. Et cette mine par en dessous, c'est l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui mine la morale du devoir. Et moi, ça ne me gêne pas du tout, parce que je n'ai jamais prétendu avoir une morale du devoir. Alors très bien, laissons sauter la morale du devoir par cette mine. Cette mine qui consiste à mettre justement l'inconscient. Une philosophie qui serait une philosophie où la conscience claire est très gênée, c'est-à-dire Descartes, est très gêné par Freud. C'est le petit-fils qui mine le grand-père. C'est très très gênant. Oui, parce que Descartes, Kant, Freud. Vous voyez ça, il mine. Il mine la morale du droit, il mine la philosophie de la clarté. En montrant qu'il y a quelque chose qui est avant la clarté, les ténèbres. L'inconscient. L'inconscient, c'est toujours ténébreux. Vous ne pouvez pas préciser ce que c'est que l'inconscient. Vous savez bien, impossible. Vous pouvez discuter avec des freudiens, vous n'arriverez jamais à avoir une idée claire de l'inconscient. Et donc, vous montrez qu'avant les idées claires, il y a les ténèbres. Ce que disait Aristote, pour les théologiens, avant la lumière, il y a les ténèbres. Et c'est vrai qu'il y a les ténèbres, l'inconscient. Mais il faut peut-être dépasser l'opposition que fait Freud entre devoir et plaisir. Parce que c'est la grande distinction de Freud. Devoir et plaisir, il y a quelque chose qui est antérieur. Je ne peux pas construire une morale sur l'inconscient. Impossible. Je ne peux pas construire une morale sur le devoir. Donc cette opposition du devoir et du plaisir, elle est dépassée dès que je suis au niveau philosophique. Et je vois que cette opposition, elle est intéressante, psychologiquement. Elle est intéressante, mais elle est complètement dépassée. Mais je crois que ce qu'il faut essayer de saisir dans une perspective critique, c'est qu'il ne peut pas y avoir de morale sans la découverte de la cause finale. La première chose qu'il faut faire, le grand mérite d'Aristote et de saint Thomas, c'est d'avoir montré que c'est la découverte de la cause finale qui me met en face de l'amour, l'amour spirituel. Et qu'il ne peut pas y avoir de morale sans cette découverte de l'amour spirituel. L'amour spirituel est au-delà du devoir et du plaisir. C'est un au-delà. Et c'est cet amour spirituel qui peut seul fonder une morale. Ça, il faut le découvrir, hein, je ne peux pas. C'est pas un a priori. Dites-vous bien, c'est pas un a priori. Tant que vous ne l'avez pas découvert, c'est un a priori. Mais vous devez le découvrir. Et on doit chacun d'entre nous découvrir. La causalité finale, ça se découvre. Personnellement, de l'intérieur. Tant que vous comprenez la cause finale de l'extérieur, c'est une cause exemplaire. C'est la cause exemplaire qui remplace la cause finale. Et vous êtes dans le platonisme. Et on retrouve toujours Platon. On le trouve ce matin, on le trouve ici d'une autre manière. Tant que vous n'avez pas découvert vous-même que seul l'amour qui me lie à ma fin, c'est le bien qui suscite en moi l'amour. Et que la fin ne peut se préciser que sur le point de vue du bien. Tant que vous n'avez pas découvert ce qu'est le bien par l'amour, il n'y a pas de mort. Alors, il faut soi-même découvrir cela. On y reviendra là-dessus, parce que c'est très important. C'est le point de vue premier. Je ne dis pas que, vous voyez, ce n'est pas l'élément, c'est le point de vue premier découvrir la causalité finale. Pas d'éthique, pas de philosophie éthique, pas de morale vécue, sans avoir découvert le point de vue de la cause finale. Ça montre combien Dieu sera miséricordieux. Parce que des quantités d'hommes vivent sans avoir découvert la causalité finale. Alors, ils vivent d'une façon infra-humaine. Et vivant d'une façon infra-humaine, ils sont très peu responsables. Ils sont très peu responsables. Et c'est vrai que notre climat d'aujourd'hui favorise de vivre d'une façon infra-humaine. Il faut redécouvrir le point de vue humain. C'est-à-dire, je ne suis vraiment humain que quand je commence à aimer. Et aimer d'une façon spirituelle. À partir de là, on peut essayer de comprendre ce qu'est la philosophie éthique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.